Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Et ce soir, nous évoquons la liberté de panorama avec vous, Olivier Hugo. Vous êtes avocat, bonsoir.
Bonsoir.
La liberté de panorama, dans le projet de loi pour une république numérique, il est proposé de modifier le statut des droits d'auteur sur la diffusion de photographies d'œuvres et bâtiments visibles depuis des lieux publics. Alors pour expliquer simplement les choses, si vous prenez en photo devant le musée du Louvre, devant par exemple la pyramide ou devant l'opéra Bastille ou d'autres lieux, les colonnes de Buren, eh bien se pose la question des droits de ces photos, notamment parce qu'il y a une œuvre qui figure plus ou moins bien visible sur la photo. Alors aujourd'hui en France, il est interdit de diffuser une photo d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Ça signifie par exemple donc qu'il est interdit de poster sur les réseaux sociaux une photo dont le viaduc de Milo serait l'objet principal. En revanche, si on prend une photo ou une personne devant un monument figure, alors le monument n'étant pas l'objet principal de la photo, le respect du droit d'auteur ne s'applique pas. Sur ces questions, deux amendements sur la liberté de panorama ont été adoptés en commission des lois au Parlement dans le cadre donc de cette loi sur projet de loi sur la République numérique. Et ces amendements proposent d'autoriser les reproductions et représentations des œuvres architecturales et des sculptures réalisées pour être placées en permanence dans des extérieurs publics. Le but de cet amendement, c'est de permettre la prise de photos d'œuvres placées en permanence dans l'espace public tant que l'usage qui en est fait n'est pas commercial. Alors, Olivier Hugo, vous êtes avocat, notamment avocat de Wikimedia. Comment se pose le débat, avant de donner votre point de vue? Comment est-ce que vous voyez ce débat aujourd'hui?
Alors, comme vous l'avez indiqué, il existe aujourd'hui dans la jurisprudence, alors ce n'est pas une exception, ce serait une exception prétorienne qui vient de la jurisprudence, qui découle de la théorie de l'accessoire. C'est-à-dire que si vous prenez une photo où vous avez accessoirement les colonnes de Buren, par exemple, en arrière-plan, on voit bien que l'idée principale,
c'est
l'objet
vous.
Principal de la photo...
Un selfie.
Voilà, par exemple. Donc, il n'y aura pas de contrefaçon au droit d'auteur dans ce type de photographie. En revanche, la problématique se pose si vous faites une photographie et que vous exploitez, par exemple...
Vous en faites des cartes postales, vous les mettez dans des livres, etc.
Exactement, où là...
Toute la question, c'est toujours une recherche constante de l'équilibre entre le droit d'auteur et le droit du public, finalement.
C'est toujours la problématique du droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est un pacte, c'est un équilibre entre à la fois les droits du public, de profiter des œuvres, et le droit des auteurs, parce que le droit d'auteur est un droit exclusif. Hein.
Mais non pas absolu, finalement.
Non, exclusif, mais non pas absolu, puisqu'il y a déjà des exceptions qui existent. Et en fait, la liberté de panorama, telle qu'elle est aujourd'hui en discussion, ça serait d'ajouter une exception au droit d'auteur, qui n'existe pas dans la loi, mais qui serait différente par rapport à l'exception jurisprudentielle.
Pour qu'on comprenne bien, que veulent faire les parlementaires? C'est une loi qui était au Sénat, qui a été à l'Assemblée, qui est au Sénat, qui va revenir à l'Assemblée, etc. Donc on est dans ce débat parlementaire avec des pétitions qu'on voit circuler ici ou là. Quel est l'enjeu du débat aujourd'hui?
Alors l'enjeu tel qu'il est expliqué et qu'il ressort des débats parlementaires, c'est clairement la diffusion la République numérique, la diffusion numérique des œuvres qu'on va prendre, des photographies. Alors ça peut être effectivement sur Wikipédia, si on veut effectivement mentionner une œuvre, c'est mieux d'avoir une photo ou faire un article sur la pyramide du Louvre. C'est quand même plus agréable de lire un article avec une photographie de la pyramide du Louvre. Mais aussi, c'est les réseaux sociaux, c'est les images que l'on se passe sur Twitter, sur Facebook, etc. Et c'est pour assurer la diffusion et aussi du patrimoine français, puisqu'il y a cet aspect aussi qui est important et économique, hein, aussi, et de l'image de la France dans le monde, la diffusion globale de l'espace public, puisque ce qui est important, c'est qu'on est vraiment dans l'espace public, hein. C'est vraiment, on est dans la rue, clairement.
Hein, oui, on pourrait considérer au fond que ces œuvres ont été payées par le contribuable. Ce sont, quand on va devant le pont du Gard, on paye pas une cotisation aux Romains. Pourquoi est-ce qu'il faudrait, lorsqu'on photographie comme ça, surtout pour les réseaux sociaux, des œuvres d'architecture financées par le gouvernement, devoir payer?
Je pense que c'est effectivement une vraie question. Il faut voir, hors l'aspect législatif ou l'aspect légal, il faut voir l'aspect économique. Et l'aspect économique, le droit d'auteur, il y a une composante du droit moral, une composante patrimoniale, donc économique. Et la composante économique, là on parle d'œuvres d'architecture, je pense pas que les architectes vivent principalement des cartes postales qui sont faites.
Mais en même temps, c'est eux qui ont commencé à le mettre dans les contrats lorsqu'ils signaient des contrats avec les mairies.
C'est une forme de rémunération supplémentaire, c'est pas nié, mais c'est peut-être un petit peu différent que par exemple la musique ou le cinéma par exemple.
Marjorie Paillon.
Oui, à une ère où justement l'image est extrêmement importante, surtout sa diffusion sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui me prémunit, moi, personne physique, de contrevenir à la loi très concrètement? Est-ce que j'adopte du coup cette astuce de faire valoir le fait que l'objet de ma photo, mon sujet, soit la chose ou la personne que je mets en premier plan et non pas le monument que je prends en photo derrière? Parce que c'est très compliqué en réalité d'interdire et puis essayer de réussir à comprendre ce qui est à but lucratif ou non lucratif quand on est quelqu'un de prolixe en ligne.
C'est tout à fait le cas. La jurisprudence aujourd'hui telle qu'elle existe, bon, il n'y a pas eu de cas sur des particuliers à ma connaissance, mais si on applique la loi, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui, entre les usages qui sont faits et la loi telle qu'elle est rédigée, telle qu'elle existe, bon, il y a un hiatus et que l'objet, c'est effectivement de combler cette différence et d'adapter la loi aux usages actuels qui sont faits par... Enfin, c'est tellement simple aujourd'hui de prendre une photo et de la diffuser, ce qui n'existait pas il y a même quelques années maintenant. Donc l'idée, c'est vraiment cette adaptation. Après, se pose la problématique, et je pense que c'est vraiment ça où il y a les points d'achoppement dans les débats, c'est la problématique économique.
Oui, encore une fois.
Et c'est la rémunération. C'est vraiment cette question.
Alors justement, quant à la répercussion économique de la chose, il y a aussi un autre bras de fer juridique qui se joue sur cette liberté de panorama, c'est aussi le statut d'hébergeur, peut-être, des réseaux sociaux.
Qui sont des entreprises commerciales, en l'occurrence, en plus.
Oui, alors, c'est même encore plus complexe. Alors, il y a le statut d'hébergeur, mais il y a le fait aussi qu'en tant que particulier, quand vous uploadez, quand vous diffusez une photographie, vous garantissez, au terme des conditions générales, que vous ne lisez jamais, que personne ne lit, mais...
Qu'elle vous appartient.
Oui, et que vous avez les droits de le faire. Donc c'est pour ça que pour moi ce débat est un petit peu étrange parfois, puisque effectivement c'est réalisé par des particuliers à des fins non lucratives, mais on sait que si on les met sur ces réseaux sociaux, au terme des conditions générales, on va pouvoir les réutiliser, ils vont pouvoir les réutiliser, ou même les autres
générer
utilisateurs.
Générer de la publicité, etc.
Oui, même les autres
Alors,
utilisateurs.
Vous êtes Olivier Hugo, avocat, et notamment avocat de Wikipédia et de Wikimedia, la fondation qui héberge et qui s'occupe de Wikipédia. Quel est votre point de vue, à ce moment-là, en tant qu'avocat, plus personnel sur ce débat?
Je pense que le droit d'auteur est vraiment une question d'équilibre. Je pense que l'usage a été...
Ça, on est bien d'accord, mais pour aller plus loin.
L'équilibriste, en l'occurrence.
Oui, oui. Non, je pense que le cas, en l'occurrence, des architectes et des sculpteurs est différent du cas qu'on a connu préalablement dans la musique ou avec le cinéma, avec le téléchargement.
Ouais.
Et que il est important de... il y a aussi un aspect de diffusion de la culture, par exemple sur Wikipédia et même sur les réseaux sociaux, qui est différent que de regarder par exemple un film ou d'écouter de la musique, télécharger ses choix, c'est pas du tout la même chose.
Pour aller plus loin sur cette question, vous pouvez consulter article, ouvrage et référence sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power. Et vous pouvez également vous abonner au podcast Soft Power sur le site franceculture.fr. Et pour les anciens mots de l'alphabet numérique, vous pouvez consulter notre page alphabetnumérique.com.